the howl of a wolf. In the Mistwood, I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolf's howl, make this signal right under the source. Ah, don't fret. There is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off.
Il y a des personnages qu'on ne souhaite pas voir mourir. Des personnages qui nous inspirent directement la sympathie au premier regard, que ce soit par leur visuel, leur façon de s'exprimer ou leur histoire, mais aussi parfois parce qu'ils nous feront penser à un autre personnage connu de l'imaginaire collectif. Que l'on soit familier ou non de l'œuvre de Kentaro Miura, dire que l'on ne pense pas immédiatement à Guts, le protagoniste de Berserk en voyant Blade le semi-loup, serait une hérésie. Cette épée gigantesque, cette allure, cette façon de s'exprimer volontairement bourrue et minimaliste, cette âme guerrière, mais qui cache derrière une histoire plus profonde, une personnalité plus nuancée, un cœur. Il n'y a qu'à regarder la couverture du tome 28 de Berserk pour se demander si ce n'est pas directement, à partir de cette illustration, que les développeurs sont partis pour créer le personnage. Ce qui est plus que probable, puisque ces derniers s'en étaient déjà inspirés pour le visuel de la Prepare to Die édition de Dark Souls 1, mettant l'emphase sur Artorias of the Abyss. Et c'est certainement ce qui a construit un attachement immédiat entre les joueurs et Blade, que j'ai pu constater en préparant cet épisode. Moi qui ai l'habitude de consulter beaucoup d'images pour préparer mes vidéos et les miniatures, je n'ai jamais vu autant d'artwork de fans que pour le personnage de Blade. Un personnage qui nous permettra, au cours de cette vidéo, de revenir sur de nombreux sujets entourant l'histoire d'Elden Ring, de Rani aux ombres funestes en passant par Iji le forgeron. Hello à tous, c'est Ludic, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'histoire d'un personnage déjà mythique de Elden Ring, Blade le semi-loup. C'est au sein des bois brumeux que vous entendez pour la première fois retentir le cri lupin de Blade. À l'approche de ces ruines mystérieuses, protégées par un ours runique endormi, vous levez les yeux au ciel pour apercevoir une silhouette perchée au sommet. Comment attiser la confiance de cette créature et la faire descendre de son perchoir ? De retour auprès de Calais, votre marchand fraîchement rencontré, ce dernier vous apprend qu'il ne s'agit pas de n'importe quel quidam, mais de Blade le semi-loup, et il vous indique alors comment, par un simple claquement de doigts, vous pourrez lui faire baisser sa garde. C'est alors qu'une brume soporifique commence à entourer l'église, plongeant Calais dans un profond sommeil. Tout semble endormi autour de vous, quand vous sentez une présence non loin de là qui vous invite à la rejoindre.
A pleasure to meet thee, Tarnished. I am the witch Renna. I'd heard tell of a Tarnished hurtling about atop a spectral steed, and upon looking into the matter, the talk, I surmise, is of thee. How long will it be, I wonder, before the Tarnished tire of obeisance to the two fingers?
Vous vous en retournez au bois brumeux pour enfin vous entretenir avec Blade. Après une courte présentation, ce dernier vous explique être à la recherche du chevalier limier Dariwil, qu'il qualifie de traître. Le nom Dariwil est très certainement issu du mot Dariwilian, qui correspond à une strate géologique datant d'environ 450 millions d'années et qui a été nommée ainsi en référence à Dariwil, une localité du comté de Grant en Australie. Les chevaliers limiers sont une caste très mystérieuse de Elden Ring, On en croise plusieurs au cours de notre aventure, tout en ayant très peu d'informations à leur sujet. Il s'agissait vraisemblablement de redoutables chasseurs, formés pour flairer la piste des proies. Sans jamais prononcer le moindre mot, chaque chevalier choisit son propre maître, et une fois cette décision prise, il demeure loyal pour le restant de ses jours. Et c'est sûrement pour cette raison que Blade considère Dari Will comme un traître. Tout laisse à penser que ce dernier était au service de Rani avant de prendre le large. Les chevaliers limiers ne semblent pas avoir une allégeance d'origine, ils choisissent leur propre maître. On en croise un à l'académie de Raya Lucaria, un autre est invoqué pendant le combat contre Rennala, mais on sait que cette Rennala est une projection de Rani, alors cette invocation peut très bien représenter Dari Will avant sa trahison. On en trouve un autre en Kaelide, deux autour du manoir du volcan, qui semblent servir les réfractaires, l'un à proximité de l'Athéna l'Albinorique, qui semble être au service de Gideon, et un dernier du nom de Flo, dont on récupère la cendre d'invocation. Ce dernier était surnommé l'Enragé Errant. Il fit le serment de ne servir qu'un seul et unique seigneur, un authentique monarque, et c'est ainsi qu'il demeura à jamais sans maître. Mais le plus troublant concernant les chevaliers limiers est leur attitude en combat, à mi-chemin entre le félin et le loup, et un style qui fait curieusement penser à celui de Blade. Ainsi, Blade faisait-il lui-même partie des chevaliers limiers avant de choisir Rani comme maîtresse? Est-ce là la raison de sa dissension avec Dari Will? Ou alors, théorie un peu plus poussée, les chevaliers limiers ne sont-ils pas destinés à devenir les futures ombres de potentiels empyréens? Nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus loin, tout comme nous tenterons de deviner qui a véritablement enfermé Dari Will dans cette geôle éternelle.
I am E.G. A blacksmith who once served the Carian royals. An old codger who refuses to retire his rusty hammer. So here I am, still quietly plying my trade. Blythe actually did that, did he? Quite a rare occurrence for such a guarded soul as he. Perhaps he sensed something unusual about you.
Une fois Dari Will défait, votre prochaine rencontre avec Blade se fera au sein du manoir Caria, non sans avoir auparavant croisé la route de E.G. le forgeron, qui baissera sa garde une fois que vous mentionnerez Blade. Le personnage de E.G. est très intéressant, il s'agit d'un troll fouisseur, une sous-race des géants qui, comme vous le savez sûrement maintenant, ont trahi ces derniers lors de la guerre contre l'Ordre d'Or. Il est intéressant de voir qu'il arbore un homme miroir nocrien, qui est porté par les individus déterminés à se rendre coupable de haute trahison et empêche l'intervention de la volonté suprême et des doigts qui la servent, ce qui marque l'allégeance de E.G. envers les Caria et son opposition à l'Ordre d'Or. Mais le plus intéressant est qu'il était présent pendant toute l'enfance de Rani, et qu'il pourra donc nous en apprendre un peu plus sur les origines de Blade. Rani, justement, que vous recroisez lors de votre visite au manoir. Cette dernière vous met au défi de retrouver la légendaire cité éternelle de Nokron, tout en faisant équipe avec son triptyque de vassaux, Blade, E.G. et Céluvis. Céluvis le précepteur est le premier à mentionner Blade comme étant un bâtard. Le terme utilisé en anglais est « mongrel ». Il peut aussi bien désigner une créature hybride qu'un enfant issu d'une union illégitime. D'ailleurs, le terme « misbegotten », utilisé pour les chimères, renferme également cette signification.
Blythe is Lady Rani's stepbrother. Rani's mother, Queen Rennala, approved of him, and they played like siblings from childhood. They were always happy to have me tag along as well. When Lady Rani renounced her flesh and chose the dark path of the Empyrean, Blythe and I swore allegiance as vassals. But none of us will ever forget our earliest days together.
Ce qui nous amène à évoquer les origines de Blade. Qui est-il exactement? Quels sont les secrets de sa naissance? E.G. nous le présente comme étant le fils adoptif de Rennala, ce qui explique qu'il ait passé son enfance avec Rani. mais selon moi, et comme j'avais déjà eu l'occasion de le dire dans une précédente vidéo, Blade pourrait être issu d'une union entre Rennala et le loup de Radagon que l'on affronte à l'académie, ce qui en ferait le demi-frère de Rani. Cela justifierait son apparence de semi-loup, et quand on regarde Blade de plus près, c'est bien des traces de fourrure rousse que l'on semble apercevoir. Cela pourrait prêter à sourire, pourtant les relations interespèces n'ont rien d'étranger au jeu From Software. Prenez Dark Souls 1 par exemple, et le personnage de Priscilla la Métissée que vous croisez dans le monde peint d'Ariamis. Cette dernière serait pour certains issue d'une union entre le dragon albinos Sith et la princesse Guinevere, fille du seigneur Gwyn, mais il apparaît plus logique de la considérer comme la fille du dragon écorché avec Velka, la déesse du péché, personnalité éminente du lore de Dark Souls 1. Vous voyez donc qu'une éventuelle union entre Rennala et le loup cramoisi de Radagon n'a rien d'impossible, tout en sachant que la matriarche de la famille Caria était probablement dévastée par le départ de son époux Radagon. Elle aurait alors été obligée d'accepter Blade comme fils adoptif pour tenter de passer sous silence ses véritables origines. C'est une éventualité qu'il ne faut selon moi pas exclure. Plus de 50% des gens regardant cette vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors si vous ne voulez pas que je vous envoie une ombre funeste directement à votre domicile, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Bon visionnage.
Ah, good. I was waiting for you. Oh, what a sick way to fight, eh? The glory of the clash is shared. By Radahn. And you. And did you see that afterwards? A falling star right before our eyes. I can't fathom how Radahn was holding back something of that scale.
Après discussion avec Séluvis puis Sélène, ancienne initiée de l'Académie, il apparaît que pour trouver la cité éternelle de Nokron, il nous faudra triompher du demi-dieu et frère de Rani, Radahn, le fléau des astres, car ce dernier a en effet scellé le destin de sa sœur en stoppant le mouvement des étoiles. À l'approche du festival du Lion Rouge, en Kaelid, nous retombons sur Blade, qui nous prêtera main forte dans l'affrontement contre Radahn. Une fois ce dernier vaincu, une gigantesque météorite s'écrase en nécrolimbe, dévoilant la cité éternelle de Nokron, où Blade nous invitera à le rejoindre. Une fois là-bas, pas de traces du semi-loup, mais les restes d'une cité majestueuse, recouverte d'un faux ciel étoilé de pierres d'éclat. L'endroit n'est pas désert, puisqu'on y retrouve les traces d'une civilisation antique, celle des Nox, un peuple magique qui vénérait la lune noire, tout comme le fait Rani. On croisera le fer avec des larmes d'argent à emprunt de foudre, des noctelames à dos de fourmis géantes, mais ça ne suffira pas à nous empêcher de mettre la main sur le trésor de la cité, la lame digicide, ce que Rani cherchait à obtenir en réalité. Cette lame est la raison pour laquelle les Nox furent considérés comme hérétiques et enfermés sous terre, cette dernière étant capable de blesser la volonté suprême et ses vassaux. En remettant cet objet à Rani, elle commencera à vous avouer ses véritables desseins. Après avoir tranché elle-même sa propre chair d'empyréenne, à l'aide d'un fragment de la rune de mort, elle cherche à se défaire définitivement de la volonté suprême en se débarrassant de ses vassaux, les deux doigts, auxquels elle reste liée. Ceci dans l'optique de pouvoir enfin rejoindre son nouveau corps, et elle a pour cela besoin de la lame digicide. Avant son départ, Rani vous remettra d'ailleurs la statue inversée de Caria, vous permettant d'accéder à sa tour divine et à son véritable corps, meurtri par la marque maudite de la mort. L'histoire de l'empyréenne Rani et de son vassal Blade pourrait alors s'arrêter là. Sauf si vous décidez d'aller plus loin et d'utiliser le téléporteur au sommet de la tour de Rena qui vient de se débloquer. Vous voyagez alors vers le lit principal de la rivière Incel et non loin de vous se trouve une poupée miniature de Rani. Cette dernière, désemparée, sera alors bien obligée de tout vous avouer sur le passé de l'Entre-Terre.
I was once an Empyrean of the demigods. Only I, Mikala, and Melania could claim that title. Each of us was chosen by our own two fingers as a candidate to succeed Queen Marika, to become the new god of the coming age, which is when I received Blythe, in the form of a vassal tailored for an Empyrean. But I would not acquiesce to the two fingers. I stole the Rune of Death, slew mine own Empyrean flesh, casting it away. I would not be controlled by that thing. The two fingers and I have been cursing each other ever since, and the baleful shadows are their assassins.
Blade n'est donc pas n'importe qui vis-à-vis de Rani, il est son ombre, tout comme Maliket est l'ombre de Marika. Une ombre est une personne choisie, ou créée, comme semble le dire Rani, pour servir docilement un empyréen en devenir. L'ombre est en réalité une assurance, une sécurité, au cas où l'empyréen viendrait à dévier de la voie de la volonté suprême et chercherait à se retourner contre elle. Mais quel est le véritable secret derrière la création des ombres? Sont-elles des entités créées de toutes pièces, à partir de rien? Ou sont-elles choisies, en fonction de l'entourage de l'empyréen? Enfin, pourquoi les ombres semblent avoir un lien plus qu'apparent avec les loups? Blade est un semi-loup. Maliket est certes un homme bête, mais tout dans son apparence se rapproche du félin. Sur l'armure de Wargram, l'un des premiers sans éclat à avoir visité le bastion de la Table Ronde, on peut lire que selon les anciennes légendes, les loups seraient les ombres des Empyréens, et que Wargram lui-même aspirait à en devenir une. Est-ce vraiment un hasard si lors de notre première rencontre, Rani nous remet les cendres de trois loups solitaires? Est-ce vraiment un hasard si on tombe sur trois loups en approchant de la tour de Rani? Enfin, est-ce vraiment un hasard de trouver à Farum Azula une statue de petite fille entourée de trois loups? Ou alors sommes-nous, comme souvent dans Elden Ring, en présence d'un schéma qui se répète? Sur l'espadon royal de Blade, on peut lire qu'il refusa le destin dont il avait hérité à la naissance pour se mettre au service de Rani. Mais de quel destin parle-t-on exactement? Celui de futur chevalier limier ou autre chose? Ainsi, le loup est-il la cause ou la conséquence de cette nature d'ombre? Rien n'est plus flou que cette notion, et je n'ai pas de réponse claire à cette question. Alors je suis curieux d'avoir votre avis sur le sujet en commentaire, et si vous avez d'autres indices ou idées susceptibles de répondre à ces interrogations.
Even when I turned my back upon the two fingers, Blythe remained my loyal ally. Though he was created a vassal for an Empyrean, he was a colossal failure on the part of the two fingers, Blythe and EG both. Art willing to give too much to me, yet they both understand what lieth beyond the dark path, that I must betray everything and rid the world of what came before.
Quoi qu'il en soit, à l'issue de votre conversation avec Rani, il vous faudra croiser le fer avec l'ombre funeste de Blade, un redoutable adversaire. Il ne s'agit pas de Blade à proprement parler, mais plus d'une projection de la face la plus sombre du semi-loup qui cherche à protéger les deux doigts. Une fois ce dernier vaincu, plus rien ne se met en travers du destin de Rani. Vous arrivez vers la cathédrale de Manus Céles, que l'on pourrait traduire par main céleste ou main divine, et où l'empyréenne siège à proximité du cadavre des deux doigts, prête à revenir à la vie. Si vous possédez l'anneau de la lune noire à ce moment-là, rien ne vous empêche alors de devenir son consort destiné à l'accompagner vers une nuit éternelle et l'âge des étoiles. Fraîchement marié, et alors que vous flânez dans les landes de Nécrolimbe, votre instinct vous intime de retourner à la geôle éternelle du limier esselé, où vous aviez affronté Dariwil. Vous entendez alors une voix au loin, qui vous appelle. Il s'agit en réalité de Blade, qui a été enfermé là par EG, ce dernier étant terrifié de ce que Blade pourrait faire à sa maîtresse Rani. j'en déduis que c'était certainement Iji qui avait enfermé Dari Will en premier lieu dans cette geôle éternelle, puisqu'il semble en avoir l'accès. Peut-être souhaitait-il alors éviter que Blade succombe à sa folie vengeresse et à son côté plus obscur. Malheureusement, que vous décidiez ou non de libérer Blade ne changera rien à son destin. Vous vous rendez une dernière fois à la tour de Rani, où Blade semble avoir été attaqué par des couteaux noirs, les assassins qui avaient permis à Rani de dérober un fragment de la rune de mort. Ceci pourrait, selon moi, nous donner un indice sur la véritable allégeance des couteaux noirs. Ces dernières sont des numènes, et elles obéissent donc avant toute chose à Marika. En témoigne le couteau noir que l'on trouve endormi à proximité de la chambre de la reine, ou même le fait que Alecto, la chef des couteaux noirs, se retrouve enfermée dans une geôle éternelle à proximité de Rani, sûrement quand cette dernière comprit que les assassins finiraient par se retourner contre elle.
Unthinkable. How could Blythe? How did he break free from his cell? No. More importantly, Blythe became a curse that plagued Lady Rani. Yet even in madness, gave himself to her. I made a grave misjudgment. And I thought myself a capable war counselor. I'll catch up with you soon enough, Blythe. When I do, I only hope you'll accept my apology.
Mais Blade était trop fort, et c'est donc à vous que revient la dure tâche de mettre fin à sa folie meurtrière. Une fin digne du guerrier qu'il était, plus digne en tout cas que celle de Iji, qui après avoir appris la mort de son fidèle compagnon, acceptera la sienne, non sans avoir auparavant réglé leur compte à quelques couteaux noirs. Les compagnons de Rani ont maintenant tous disparu, son ordre prend fin. Blade et Iji étaient censés accompagner leur empyréenne vers sa destinée, mais pas plus loin. C'est à vous, son consort, que revient maintenant la tâche de la guider dans la nuit éternelle qui s'annonce et la naissance d'un nouvel âge, celui des étoiles.
Mine will be an order not of gold, but the stars and moon of the chill night. I would keep them far from the earth beneath our feet, as it is now. Life and souls and order are bound tightly together. But I would have them at a great remove, and have the certainties of sight, emotion, faith, and touch all become impossibilities, which is why I would abandon this soil with mine order. Wouldst thou come to me even now, my one and only Lord?